Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre formation sur l'histoire africaine, précoloniale, coloniale, mais aussi l'histoire de la diaspora africaine, notamment ses grandes figures. Aujourd'hui, je vais parler d'une personnalité très intéressante, du nom de Toussaint Louverture. Du côté de l'Haïti, en tout cas, c'était la République de Saint-Domingue qui va se scinder en deux, comme on le sait, la République dominicaine et puis Haïti. De son vrai nom, François-Dominique Toussaint Louverture, les sources indiquent qu'il serait né, c'est pas précis, il serait né vers 1743 d'une famille d'esclaves à Saint-Domingue, donc pendant la période esclavagiste. On croit qu'il a vu le jour dans la plantation Breda, près de Cap Français, Cap Haïtien. Et donc, avant qu'il porte le nom de Louverture, d'ailleurs, son nom de famille utilisé, c'était Toussaint Breda. Il est mort, sa date de décès est par contre connue, en 1803, à Fort Jour en France, et il avait 60 ans. Donc, il est mort après avoir été capturé, amené en France et puis emprisonné. Il était un grand chef militaire de Saint-Domingue. Il a joué un rôle de premier plan, un rôle très important dans la révolution haïtienne, donc la guerre qui a opposé cette partie de la République de Saint-Domingue, Haïti, déjà après la révolution française et puis la guerre d'indépendance aussi au début du 19e, c'est-à-dire à partir de 1802 et qui aboutit à l'indépendance d'Haïti en 1804. Il est aussi décrit comme étant un grand abolitionniste, même si certaines sources mentionnent qu'il était avant un propriétaire d'esclaves. Il y a encore des informations qui remettent en cause donc, son côté abolitionniste, mais la plupart de ceux qui ont travaillé sur lui le considèrent comme un grand abolitionniste. Ce qui est sûr, qu'il était aussi un général d'armée, un homme politique et un révolutionnaire. Nous allons d'abord parler de sa jeunesse. Il est donc né d'une famille d'esclaves, et d'une famille d'esclaves quand même rare, instruite. Le nom de ses parents, en tout cas, c'est indiqué Gao Guinou, qui selon la tradition orale, donc il a reçu une certaine éducation, contrairement à beaucoup d'autres esclaves qui ne pouvaient pas lire, écrire et qui n'avaient pas une éducation. Il y a aussi des sources qui indiquent qu'il a eu cette instruction un peu tard dans sa vie. Mais en tout cas, il était un des rares esclaves qui était capable de lire et de s'exprimer correctement. N'étant ni grand ni fort, on lui a donné le surnom de Fatra Bâton. En anglais, throw away stick, donc c'est-à-dire en français, jeter le bâton. Donc parce qu'il était petit, il n'était pas costaud en fait. Néanmoins, il était un travailleur acharné et il s'y connaissait beaucoup, notamment sur les chevaux. L'autre élément qu'on souligne, c'est qu'il a grandi dans la religion catholique et il rejetait donc les croyances traditionnelles, notamment le vaudou qui est une religion traditionnelle africaine, donc importée dans les Amériques et les Caraïbes, notamment à Haïti et Saint-Domingue, les esclaves qui ont été donc pris dans le golfe de Guinée, notamment dans l'ancien royaume de Dahomey. Et pendant ces périodes, donc, Toussaint travaillait aussi comme steward sur la plantation à Breda. Il avait mérité la faveur de son maître qui lui a donné donc sa liberté en 1777. Donc, disons, après 34, quelque chose comme ça, il est devenu libre. Il s'est ensuite marié avec Suzanne Simon-Baptiste, avec qui il a eu deux enfants. On nommait Isaac et un autre qui est nommé Saint-Jean. Toussaint Louverture a joué un rôle historique de premier plan dans la révolution haïtienne. Donc, c'est une longue révolution qui s'est opérée en deux phases. La première partie, donc, disons, a commencé en 1791 dans la foulée de la révolution française et puis la déclaration des droits, de droits et libertés. Et surtout, ce qui s'est accentué justement quand Napoléon a remis l'esclavage, a légalisé d'une seconde fois l'esclavage, et donc ça a amené la révolte générale à Haïti. Et donc il devient l'une des figures des mouvements d'émancipation des colonies par rapport donc à leur métropole. Toussaint Louverture En plus d'occuper des fonctions de médecin, c'est les insurgés qu'il soignait, qu'il aidait. Il a offert des services de conseiller qu'il jugeait plus malléables que d'autres personnes. Par exemple, il y a un certain Jean-François qui était le chef du suprême des armées, qui intervenait aussi comme médecin, mais d'après les informations, il semblait que toute son ouverture était beaucoup plus expérimentée à offrir ces soins-là. Il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit sur Toussaint Louverture. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, Bernard Guénot, lui, il souligne que Toussaint Louverture donc organisait une garde disciplinée qui tranche avec la totale désorganisation des insurgés. Donc là, il nous montre très tôt qu'il avait des capacités militaires et une compétence de structurer, d'organiser son armée. En 1791, donc en pleine révolution, donc en tout cas l'acquisition donc de la fin de la révolution de la monarchie en France, lorsque donc la révolte des esclaves a éclaté à Saint-Domingue, Toussaint Louverture a formé les anciens esclaves qui ont donc mené une guérilla et il les a dirigés. En 1793, quand l'Espagne a déclaré donc la guerre contre la France, il avait choisi stratégiquement de s'allier avec la nation espagnole contre la France pour pousser la France donc à abolir définitivement l'esclavage et puis que Saint-Domingue devienne une république libre et indépendante. Il a inspiré ses soldats, hein, parmi lesquels d'ailleurs se trouvaient un nommé Henri Christophe et un autre qui s'appelle Jean-Jacques Dessalines, qui va véritablement être le héros de de la guerre d'indépendance d'Haïti 10 ans plus tard. Puis en 1794, quand la France a aboli l'esclavage le 4 février, Toussaint Louverture va changer excusez-moi, de stratégie. Il décide donc de se rallier à la France parce que, dit-il, l'Espagne et la Grande-Bretagne avaient refusé d'abolir l'esclavage. Donc, il arrête la guerre contre la France sous prétexte que la France a aboli l'esclavage. Et donc, cette fois-ci, ses ennemis vont devenir l'Espagne et la Grande-Bretagne, surtout l'Espagne, qui est quand même à Saint-Domingue et à Cuba à côté. Grâce à cette décision, la France a pu maintenir sa domination de la colonie pendant une certaine période de temps. Et en 1795, Toussaint est devenu le lieutenant-gouverneur français de Saint-Domingue. Donc, il a réussi à se faire accepter par la France et avoir un poste élevé à Saint-Domingue. Mais les événements qui s'enchaînent, on va voir que quelques années plus tard, même si la Révolution française avait aboli l'esclavage et que tout le monde pensait que tout était beau du côté des Caraïbes et des Amériques, Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir en 1799 et enfin, il devient le premier consul de France et comme chef des Français donc, il a décidé de restaurer l'ancien système tout simplement sous la pression donc des conservateurs, des propriétaires d'esclaves, du capitalisme tout simplement. Napoléon Bonaparte décide de restaurer l'esclavage dans Saint-Domingue en réintégrant donc l'esclavage dans la colonie. Et Toussaint Louverture refuse donc de se plier. Et en 1801, donc, il va véritablement changer de dynamique. Et cette fois-ci, il est obligé de faire face à la France, tout simplement. Donc, Toussaint Louverture, une fois en 1801, il a envahi donc le territoire aussi espagnol et a aboli l'esclavage. Puis, le 7 juillet de la même année, il a osé créer une nouvelle constitution pour Saint-Domingue. Sa guerre contre l'Espagne avait vraiment réussi. Et il avait non seulement, quand la France avait aboli du côté d'Haïti, donc du côté nord, mais aussi lui également, il a imposé que l'Espagne abolisse l'esclavage de leur côté du sud de Saint-Domingue. Napoléon donc était furieux que Toussaint Louverture non seulement ait cette force-là, mais aussi qu'il réussisse ce coup-là. Et Napoléon va envoyer l'armée française à Saint-Domingue pour maîtriser la révolte après des combats terribles dans lesquels l'armée française donc avait quand même souffert de pertes catastrophiques. La France avait réussi à capturer Toussaint Louverture, mais avait perdu sa colonie. Napoléon avait rêvé d'un vaste empire dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, qui n'est en réalité pas un Nouveau Monde, puisque très souvent les historiens font l'erreur d'appeler l'Amérique du Nord le Nouveau Monde, oubliant qu'ici, en terre nord-américaine, il y a eu de grandes civilisations, des peuples amérindiens, notamment la Grande Fédération Haudenosaunee, hein, les Iroquois, les Sénécas, etc., qui n'est pas très étudié, peut-être n'est pas connu, mais ce n'est pas un nouveau monde du tout. Moi, j'utiliserai pas ce terme. Donc, je dirais dans cette partie de l'Amérique, un empire donc qui s'étend du Canada au nord en passant par la Nouvelle-Orléans en Louisiane et qui allait jusqu'à la Guyane en Amérique du Sud. Surtout que dans l'Amérique centrale, ici, on a vu les grandes civilisations aztèques, mayas et incas. Il n'est pas permis d'utiliser le terme Nouveau Monde, à mon avis. La capitale de cet empire, donc, s'appelait Port-au-Prince, à Saint-Domingue. C'était à l'époque la perle des Antilles. Et il est vrai que Napoléon a emprisonné Toussaint Louverture en France, au fort de Joux, où d'ailleurs il est mort, hein, en 1803. Mais en revanche, ses rêves d'un empire glorieux où il pouvait dominer les trois Amériques donc n'a pas pu fonctionner à cause donc de ce travail de révolte et de souveraineté menée par Toussaint Louverture et ses partisans. Thank you. Ironiquement, donc, grâce à une armée d'anciens esclaves, Napoléon a dû reconnaître la nécessité non seulement d'abandonner Saint-Domingue, mais aussi de vendre les vastes étendues de la colonie de la Louisiane. Napoléon était complètement affaibli. Il va vendre la Louisiane à l'Espagne. Et puis, bon, rappelons que nous sommes aussi dans le contexte de la fin de la guerre de 7 ans. La France a été battue par l'Angleterre. La France a perdu le Canada, la Nouvelle-France, tout ce territoire-là. Elle n'a plus de force pour rester en Amérique du Nord et elle se concentre plus sur les Caraïbes, la Martinique, où elle privilégie la plantation de canne à sucre. Ainsi, Toussaint Louverture a joué un rôle de toute première importance donc dans la création de ce qu'on appelle aujourd'hui la République Haïti, la République libre et indépendante. Même si, comme je dis, au moment de l'indépendance en 1804, il est déjà mort. En même temps, il faut reconnaître que les événements en Haïti ont donné 14 étoiles donc au drapeau américain également. Cette révolution a été très très importante. Elle a aussi eu des impacts ailleurs, en Amérique du Nord et en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Toussaint Louverture reste néanmoins une figure incontournable de la révolution haïtienne, laquelle a abouti à l'indépendance de toute l'île de Saint-Domingue. Sa détention par Napoléon et sa mort en captivité achèveront de le transformer en héros, dont la légende dépasse parfois la réalité. C'est aussi un des premiers penseurs qui introduit des idées sur la décolonisation en pleine conjoncture coloniale. En tant qu'acteur majeur de la Révolution, Toussaint Louverture et son compagnon de route, Jean-Jacques Dessalines, ne sont pas dans leur écrit de simples mémoralistes. C'était vraiment des hommes d'action, mais aussi des hommes d'idées, vraiment des précurseurs, hein. Ils se projettent dans l'avenir. Et il avait conceptualisé aussi la suite de la décolonisation. D'ailleurs, on retrouve cela dans certains écrits, notamment il y a une philosophe américaine, une écrivaine américaine et historienne aussi, du nom de Susan Burke Morse, qui analyse dans ses textes, notamment dans son ouvrage intitulé Hegel, Haiti et An Universal History, qui a été publiée en 2009, elle s'interroge sur les rapports d'influence intellectuelle possibles entre leurs idées et la dialectique du maître et de l'esclave introduite par Hegel dans son ouvrage La phénoménologie de l'esprit. Une dizaine d'années auparavant, un autre historien américain, David Bryan Davis, en avait soulevé la même remarque concernant les idées mises en exergue par Toussaint Louverture. On voit donc que c'est véritablement quelqu'un de pionniers dans cette Amérique, notamment dans ces Caraïbes, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui a été vraiment un des précurseurs des mouvements d'indépendance dans le giron français, alors que jusque-là, c'est un peu plus du côté américain. Même les colonies espagnoles n'ont pas encore commencé à se soulever, hein. D'ailleurs, c'est ce combat de Haïti, de Saint-Domingue et de Toussaint Louverture qui va vraiment motiver beaucoup plus les colonies espagnoles à se libérer une par une, hein, au 19e siècle, au début du 19e siècle. C'est qu'une fois que les Américains sont indépendants, Haïti également a réussi à assécher la France. Maintenant, les colonies espagnoles vont avoir beaucoup plus de motivation à aller faire face à l'Espagne. En tout cas, Toussaint Louverture a laissé un héritage très important, à la fois dans l'actuel Haïti, mais aussi en France, ou même au Canada, ou ailleurs dans le monde. En Haïti, il est considéré comme une figure très importante, que ce soit en Haïti même ou par la diaspora haïtienne qui vit ailleurs dans le monde. On le voit aujourd'hui dans cette Afrique du XXIe siècle et puis dans la diaspora comme une grande figure du panafricanisme également, qui a réussi très tôt à montrer la voie. Il est présent dans des lieux de mémoire. Par exemple, à Haïti, il y a plusieurs lycées dans des villes, hein, qui portent son nom. En 2003, l'aéroport international de Port-au-Prince a été rebaptisé Aéroport international Toussaint Louverture. En Afrique aussi, hein, comme par exemple au Bénin, dans la ville de Alada, terre sur laquelle donc est originaire, dit-on, hein, c'est pas encore clair à 100%, sa famille. Hein, et donc là, il a été érigé en statue. C'est une origine géographique qui est encore un peu douteuse, hein, mais qui fait quand même la fierté peut-être du côté de Alada. En tout cas, au Bénin, on a fait ça. Ici même au Canada, notamment dans la ville de Québec, il y a une statue qui le représente et qui a été inaugurée le 8 septembre 2010 dans le parc de l'Amérique latine, situé dans la basse ville de Québec, donc, entre le palais de justice et la rivière Saint-Charles. À Montréal, la plus grande ville donc, du Québec et une des plus grandes villes du Canada, à l'occasion du 375e anniversaire de la fondation de cette ville, des membres de la communauté haïtienne, donc les Haïtiens sont vraiment très nombreux et très présents à Montréal, représentés par le bureau de la communauté haïtienne de Montréal, ont offert en don un buste grandeur nature de Toussaint Louverture. C'est un buste réalisé par l'artiste haïtien Dominique Denry. L'œuvre est installée à l'entrée du parc qui porte donc son nom, lui Toussaint Louverture. Même du côté de la France, l'ancienne puissance donc esclavagiste et colonialiste donc de Haïti, on voit également la présence de Toussaint Louverture. Et ça remonte depuis très longtemps. D'ailleurs, en 1927, le représentant d'Haïti à la Société des Nations, donc l'ancêtre des Nations Unies, le colonel Normus dépose un drapeau haïtien sur la cheminée face à laquelle est mort Toussaint Louverture. En 2003, plus récemment donc, pour le bicentenaire de sa mort, un buste de Toussaint Louverture est offert par Haïti et s'est exposé au Fort de Joux, la ville où il est décédé. Une plaque commémorative portant l'inscription à la mémoire de Toussaint Louverture, combattant de la liberté, artisan de l'abolition de l'esclavage, héros haïtien mort déporté au Fort de Joux en 1803. Donc, cette plaque est posée dans la crypte du Panthéon à Paris, le 27 avril 1998. On l'a célébré même jusqu'au Sénégal, hein, par des Sénégalais, par exemple. Le sculpteur artiste sénégalais du nom de Ousmane Sow a en 2014, installé près du musée du Nouveau Monde à La Rochelle, donc en France, donc une sculpture représentant Toussaint Louverture. Ousmane Sow étant d'origine sénégalaise, mais à l'époque il vivait en France, donc il a célébré dans cette figure haïtienne là-bas. On le voit également dans la littérature. Et depuis le milieu du 19e siècle, par exemple, Alphonse de Lamartine, en 1850, publie un poème dramatique en 5 actes, Toussaint Louverture, hein, qui fut créé pour donc faire du théâtre, hein, théâtre au Port Saint-Martin, par exemple. Un autre grand auteur, Alexandre Dumas, dans son roman Les Mohicans de Paris, 1854-1855, il met en scène à Paris, sous la restauration des sociétés secrètes dont un membre a pris le pseudonyme de Toussaint Louverture. Le grand Aimé Césaire fait référence à Toussaint Louverture dans son cahier de retour au pays natal. Madison Smart Bell intègre Toussaint Louverture et certains de ses contemporains dans sa grande trilogie romanesque historique, Le Soulèvement des âmes, qui est paru en 1995, où il y a aussi Le Maître des Carrefours en 2000 et un autre livre également qui s'appelle La Pierre du Bâtisseur en 2004. Parmi tous les trois, elle parle de Toussaint Louverture. Il est également présent dans des bandes dessinées, des filmographies, les documentaires, les livres de fiction, la musique, les spectacles, etc. Toussaint Louverture est vraiment présent dans beaucoup, beaucoup de domaines du savoir et des canaux de diffusion du savoir. Pour approfondir donc vos connaissances sur le sujet, sur Toussaint Louverture, je peux vous donner quelques ouvrages. Hein. J'ai essayé simplement de donner quelques informations assez intéressantes, mais c'est vraiment une très, très longue histoire. On ne peut pas rentrer ici dans tous les détails, mais si vous êtes amateur de lecture, je vous donne par exemple quelques livres. Notamment, il y en a deux qui sont des biographies de Toussaint Louverture. Il y en a un qui est en anglais, mais les deux sont en anglais, mais ils ont traduit en français aussi. Toussaint Louverture, A Biography and Autobiography par John Reilly. Il y a aussi Toussaint Louverture, A Biography par Madison Smart Bell. Pour les livres, il y en a beaucoup. Henri Canton de Fosse, La perte d'une colonie, la révolution de Saint-Domingue. Il y a Jacques de Cona, Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti, publié aux éditions Cartelan 2004. Jacques de Cona est lui-même encore Mémoire du général Toussaint Louverture, commenté par Saint-Rémy, Gitlens. On peut citer Aimé Césaire, hein, Toussaint Louverture, la Révolution française et le problème colonial. C'est vraiment un grand écrivain qui a pris son temps pour se consacrer, on peut suivre le personnage de Toussaint Louverture. Il y a aussi Jean-Louis Donnadieu, Toussaint Louverture, le Napoléon noir, hein, publié en 2014. Laurent Dubois, Les Vengeurs du Nouveau Monde, histoire de la Révolution haïtienne. Vous voyez, il y a énormément de choses, hein, qui sont publiées sur Toussaint Louverture. Je pourrais même ajouter Alain Foch, Toussaint Louverture, ou si C.L.R. James, Les Jacobins Noirs, Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-Domingue. J'avais cité Alphonse de Lamartine, Toussaint Louverture, poème dramatique, en cinq actes. Je peux parler aussi d'écrivains haïtiens, par exemple Jean Mételus, Toussaint Louverture, pièce de théâtre. Le même Mételus a écrit un roman qui s'intitule Toussaint Louverture, le précurseur. Il y a le colonel Nermousse, histoire de la captivité et de la mort de Toussaint Louverture, notre pèlerinage au fort de Joux. Pierre Plichon, Toussaint Louverture, ou encore celui dont on dit être un des grands acteurs de l'abolition de l'esclavage dans l'Empire colonial français, même si il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Victor Schœlcher, donc lui, il a écrit Vie de Toussaint Louverture. Voilà. Et sinon, il y a beaucoup d'autres sources également en ligne pour apprendre véritablement l'histoire de cet homme-là. Voilà, j'ai voulu partager avec vous cette histoire de Toussaint Louverture en vous souhaitant de passer une bonne journée et puis des bonnes fêtes de fin d'année 2023 et une bonne et heureuse année pour l'année qui arrive. Merci, à la prochaine. C'était Amadou Ba, historien, chercheur, africaniste, qui s'intéresse à l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora de façon globale. Merci, au revoir.